بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on est arrivé au moment où les deux armées à la bataille de Uhud se font face. L'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'armée des idolâtres. On a expliqué que l'armée des musulmans sont arrivés en premier à Uhud et ils se sont placés de façon à avoir la montagne de Uhud dans leur dos, la ville de Médine face à eux, donc loin face à eux, et le mont qu'on va appeler plus tard le mont des archers, à leur gauche. L'armée des idolâtres arrive et ils se mettent donc face à eux. Et pour eux, comme on avait expliqué, pour eux c'est une très bonne position parce qu'ils ont l'impression de bloquer l'armée des musulmans qui est trois fois moins nombreuse qu'eux, entre eux, qui sont trois fois plus nombreux, et la montagne de Uhud. Et les idolâtres mettent leur cavalerie de 200 hommes du côté du mont des archers pour permettre à cette cavalerie, le cas échéant, de rentrer et de prendre à revers et par derrière l'armée des musulmans en passant par le passage qu'il y a entre le mont des archers et la montagne de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les voit faire ça, placer cette cavalerie à cet endroit, il comprend le danger que cet accès peut provoquer sur l'armée musulmane. Dans le cas où l'armée musulmane arrive à avancer, il pourrait être pris par derrière par cette cavalerie. Donc il envoie Abdullah ibn Jubayr à la tête de 50 archers, 50 compagnons qui sont des spécialistes du tir à l'arc, il les envoie sur le mont des archers et il leur donne comme ordre de ne pas bouger de cette place-là, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il leur envoie l'ordre, c'est bon, vous pouvez descendre. À un tel point que, dans la version de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « In ra'aytumuna tahtifuna at-tayr » فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا قد غنمنا وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. Si vous voyez que même les oiseaux nous prennent et nous déciment un par un, ne quittez pas cet endroit, ne quittez pas cette place, ce mont, jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un avec l'ordre de quitter cet endroit. Et si vous voyez que nous gagnons et que nous écrasons ce groupe, ces ennemis, même dans ce cas-là, ne nous rejoignez pas jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un qui vous donne l'ordre de descendre. Dans une autre version, « Uhmu dhuhurana »« In ra'aytumuna nuqtal fala tansuruna » وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا فَلَا تُشْرِكُونَا. Protégez nos arrières, notre dos, ظُهُورَنَا. إن رأيتمونا نقتل. Si vous nous voyez nous faire tuer, فلا تنصرونا. Ne nous secourez pas. وإن رأيتمونا قد غنمنا. Et si vous nous voyez en train de ramasser le butin, c'est-à-dire on a gagné, on est en train de ramasser le butin, فلا تشركونا. Ne nous associez pas, ne nous rejoignez pas. نعم. Et dans l'autre version, on avait cité trois des versions. إن ضحوا الخيل عنا بالنبل. Faites pleuvoir les flèches pour nous protéger des cavaliers, de la cavalerie. Faites pleuvoir sur eux des flèches. Non. À la Koulihal, on a aussi parlé de la différence qu'il y avait à ce point-là. À ce moment-là, quelle différence il y a en apparence et dans le fond entre l'armée des idolâtres et l'armée des musulmans. En apparence, les idolâtres sont bien plus nombreux, plus armés, plus entraînés, etc., etc. Mais dans le fond, il y a d'autres différences et d'autres nuances. C'est que l'armée des musulmans sont autour d'un seul et même chef, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi qu'ils disent, ils le respectent. Les seuls qui auraient pu poser problème, c'est les hypocrites. Et les hypocrites se sont retirés avant d'arriver à Uhud. Et donc en soi, c'est un bien. Ensuite, il y a le fait que les idolâtres, eux, n'ont pas, ils ont un seul chef, c'est Abu Sufyan, mais il y a des rivalités entre les tribus, etc. Et ils n'ont pas non plus un seul et même objectif. Ils viennent pour se venger. L'objectif de certaines personnes, de certaines familles, de certaines tribus, c'est qu'ils sont là pour tuer un tel. Comme par exemple la famille de Tu'aymah ibn Adi, ils sont là pour tuer Hamza ibn Abd al-Muttalib. Pour eux, c'est ça leur objectif. Non. Tout ça, on l'a vu la semaine dernière, on ne va pas revenir sur tout ça en détail. Et on avait aussi parlé d'Abu Dujana, le professeur Hassan, pour galvaniser les troupes. La première chose qu'il a dit, c'est « La yuqatilanna ahadun hatta amurahu biqital » que nul d'entre vous ne combatte jusqu'à ce que j'en donne l'ordre. Restez fermes, à vos places, à vos postes, et quand je vous donne l'ordre d'attaquer ou de combattre, à ce moment-là, vous le ferez. Et la deuxième chose, c'est que le professeur Sam s'est adressé aux compagnons, il a dit « Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqihi » Qui va prendre cette épée avec son droit, avec le droit que cette épée a sur la personne? Zubayr ibn al-Awwam et d'autres compagnons ont essayé. Ils se sont levés, le professeur sallam ne leur a pas donné l'épée. Jusqu'à ce que ce soit Abu Dujana, Simak, son surnom Abu Dujana, son véritable nom c'est Simak ibn Kharasha, radiyallahu anhu. Il se lève et il dit « Ana akhuduhu bihaqqihi ya Rasulullah wa ma haqquh » Moi je le prends avec son droit au messager d'Allah. Quel est son droit? Et le professeur sallam dira « Son droit c'est que tu ne laisses échapper de cette épée si tu la prends aucun ennemi. » Et tu n'attaques avec cette épée aucun allié, aucun musulman. Et le professeur Hassan va donc donner l'épée à Abu Dujana, radiyallahu anhu. Et il va se pavaner. Ah, il va faire une démarche orgueilleuse. Il va mettre son bandeau rouge. Et le professeur Hassan va même dire, ce genre de démarche, pleine d'orgueil, Allah l'a interdit, sauf dans ce genre de situation. Donc il faut aussi comprendre qu'on est ici dans une et c'était comme ça que se faisaient les guerres pendant des siècles, quand les deux armées se faisaient face et que les hommes se regardaient. Il y avait d'abord une histoire de impressionner les autres, et donc c'est ce que les musulmans font, c'est ce qu'Abu Dujana fait. Il veut impressionner, il veut montrer qu'on n'a pas peur, il veut montrer de quoi on est capable, et tous les musulmans le font. C'est pour ça qu'ils se mettent en rang, que leurs rangs sont droits. Non. Et les idolâtres vont aussi être, contrairement à Badr, ils avaient raté cette étape. Et ici, dans l'étape à Uhud, ils vont être dans ce registre-là, comme on va le voir. Et justement, pour mieux le voir, il faut bien comprendre comment sont positionnés les idolâtres. Nous, on a dit qu'ils sont en face des musulmans. Et que la cavalerie, à la tête de laquelle il y a Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui était encore idolâtre à l'époque, il est à la tête de cette cavalerie et elle est sur le côté du mont des archers. Et du côté droit de l'armée idolâtre, il y a un groupe à la tête desquels il y a Ikrima ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl, Ikrima. Tous ceux qui sont à pied parmi les combattants, leur chef qui est nommé dans l'armée idolâtre, c'est Safwan ibn Umayya. Et le chef général, le grand chef des armées idolâtres, c'est Abu Sufyan. Et lui, il se place où ? Il se place au milieu de son armée. Ça, ce sera pour la bataille. Il va se placer au milieu de son armée et il va faire glorifier leur fausse divinité, Hubal. Il a même fait venir la statue Hubal jusque ce champ de bataille, comme on le verra. Ala kulli hal, ici, le premier rôle qui va être mis en évidence, c'est le rôle des Bani Abdiddar, la tribu des Bani Abdiddar. Parce que c'est eux qui vont être concernés par le duel, si duel il y a eu, comme on va le voir. Et c'est eux qui sont les porte-étendards de l'armée idolâtre. Vous savez que dans les guerres de l'époque, encore aujourd'hui, le drapeau, l'étendard, il a toute son importance. On se bat aussi pour que le drapeau soit haut, entre guillemets. Le drapeau, ça symbolise notre cause. Ça peut être un pays, ça peut être une cause, une conviction pour laquelle on se bat, cet étendard, ce drapeau. Tant que le drapeau est haut, ça veut dire, c'est ça, ça symbolise le fait qu'on arrive à garder notre parole et notre conviction et notre cause haute, élevée. Donc, celui qui décide, quelle que soit l'armée, de prendre l'étendard, de prendre le drapeau et de le lever haut devant les ennemis, il prend le risque de se sacrifier, de mourir. Le premier qu'on vise, c'est celui qui a le drapeau. Le drapeau, il faut qu'il tombe. Il a tellement une importance, le drapeau, que dans certaines batailles célèbres, ils ont pu être la cause ou une des causes de grandes victoires. Par exemple, en 1453, lorsque Mohammed al-Fatih, le calife ottoman, il rentre enfin dans la ville à l'époque qui s'appelait Constantinople et qui est devenue aujourd'hui Istanbul. La ville de Constantinople, Constantinia, le prophète Hassan a dit « La tuftahanna al-Constantinia, fala ni'mal jayshu jayshuha, wala ni'mal amiru amiruha. » La ville de Constantinople va être libérée. Et quel grand chef sera son chef ? Et quelle grande armée sera son armée ? D'ailleurs, à ce sujet-là, il y en a, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Constantinople, on l'appelle Istanbul. L'Empire ottoman, les Ottomans, ils ont donné un nouveau nom à cette ville. Une fois, quand j'étais au Hajj à la Mecque, à côté de moi, il y avait des pèlerins. On a fait connaissance et on a essayé avec mon anglais très bad, very bad, très mauvais. On a essayé de communiquer. Et le mohim, on a fait connaissance. Et à un moment, je leur ai fait référence à ça. Quand ils m'ont dit qu'ils étaient de Turcs, j'ai dit, mashallah, Mohammed al-Fatih et tout ça, le mohim. J'ai fait ces références-là. Et ensuite, j'ai parlé de la ville. Il y a la prise de la ville par Mohammed al-Fatih. Je n'ai pas dit Istanbul, j'ai dit Al-Qastantiniya. Le frère, il m'a dit, non, Constantinia, Istanbul. Je lui ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit Istanbul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai cité le hadith, et ils le connaissent tous par cœur, même en arabe, même ceux qui ne sont pas arabophones, ils le connaissent le hadith. La tuftahanna al-Qastantinia, pas dit la tuftahanna Istanbul. Il m'a dit, oui, non. Yes. Non, là, il s'est soumis, yani. Le dalil était là. Dalil sahih, surtout un hadith comme celui-là pour nos frères turcs, il est plus que sahih. Non. Avec le hal, quel rapport avec le drapeau? Il faut savoir que Mohamed al-Fatih, son objectif principal, c'était rentrer dans la ville de Constantinople. Tout ce qu'il a fait avant de devenir calife, et tout ce qu'il a fait dès qu'il a commencé à devenir calife, c'était pour atteindre un seul et même objectif, la ville de Constantinople. Sachant que bien des gens avant lui, parmi les Ottomans et même avant les Ottomans, ils ont essayé et personne n'y est jamais arrivé. Avec des armées puissantes, avec des stratagèmes, avec. Mais lui, il a dit, quand il a entendu le hadith, il a dit, c'est dans mon règne que ça doit arriver. C'est la détermination, la conviction. Le siège va durer plusieurs mois. Il y aura des moments où il va avoir beaucoup de pertes. Et il faut toujours se rappeler que quand une ville elle est assiégée, même si les gens qui défendent cette ville ils sont peu nombreux, ils ont toujours une avance sur ceux qui assiègent, les assiégeants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont protégés par les murs, ils ont la hauteur, ils sont cachés par les murs, par les bâtiments. Alors que ceux qui assiègent et qui essayent, d'abord ils sont à l'air libre, on peut leur tirer dessus depuis là où on se cache derrière les murailles, avec des flèches, avec tout ce qu'on veut. Ils sont à la merci du climat. Il ne faut pas oublier ça aussi, c'est très important. S'il se met à pleuvoir, il y a la boue, il y a ceci, il y a cela. Il faut ravitailler les gens. Quand on vit dans une ville, il y a les stocks et les réserves. Là, on vient d'ailleurs, il y avait des dizaines de milliers d'hommes dans l'armée. Il faut les nourrir chaque jour. Plus le siège est dur et plus il faut réfléchir au moyen. C'est extrêmement compliqué. Et les murailles de Constantinople, c'était plusieurs murailles. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y avait une muraille comme ça. Il y avait une muraille. Il y en avait trois. Une muraille. Déjà devant la muraille, il y avait les fossés avec l'eau. Ensuite, après cette muraille, il y avait d'autres murailles. Et entre les murailles, il y avait des fossés avec des pics, avec tout ce qu'il fallait pour que personne ne les franchisse. C'est-à-dire qu'il faut franchir la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Beaucoup de choses. Mais il y a un côté de la ville qui était sur la Corne d'Or, Yarni, sur le détroit sur la mer. Yarni. Et donc cette partie-là, il n'y avait qu'une muraille, il n'y en avait pas trois. C'était la partie la plus fragilisée. Mais les Ottomans, ils n'y avaient pas accès. Pourquoi ? Parce que les orthodoxes de Constantinople, ils avaient mis une chaîne gigantesque d'un bout à l'autre, d'une rive à l'autre, pour contrôler l'accès à cette corne d'or. Et donc, quand les bateaux ottomans ils s'approchaient pour attaquer, il y avait la chaîne, donc ils étaient obligés de ralentir, même s'ils veulent casser la chaîne, ils sont obligés de ralentir, et les autres, ils ont largement le temps de voir arriver, donc ils peuvent leur balancer tout ce qu'ils ont, en flèches, en flammes, ils commençaient déjà à avoir des petits tanks à l'époque avec de la poudre, donc ils leur balançaient tout ce qu'ils avaient, donc ils ne pouvaient pas s'approcher. Mais Mohamed al-Fatih, moi je devais parler de l'étendard, mais je suis parti sur l'histoire de la prise de Constantinople. Mohamed al-Fatih, l'idée de génie qu'il a eue, c'est de prendre les bateaux, un bateau ça doit aller sur l'eau, il les a fait passer par la terre. Puisqu'ils ne pouvaient pas passer par la mer là où il y avait la chaîne, il les a fait passer par la terre pour que, en une seule nuit, plusieurs dizaines, toute la flotte, plusieurs dizaines de navires, il les a fait glisser sur des troncs d'arbres, il a mis de la graisse, il a fait mettre de la graisse, etc. Et les gens, ils poussaient avec les cordes. Il y a eu beaucoup de morts malgré cette idée de génie. Il y en a après les bateaux, il fallait les faire monter, c'était comme une colline. Et après, on les laissait descendre, mais devant, il pouvait y avoir des gens qui n'avaient pas eu le temps de partir ou qui trébuchaient et qui se faisaient écraser par les navires ou par les gros troncs qui avaient été mis et qui roulaient. Ala kulli hal. Et donc, il a réussi à faire passer tous les navires en une seule nuit sans se faire voir par les orthodoxes. Et quand les orthodoxes se sont réveillés le matin, ils ont vu toute la flotte ottomane qui les assiégeait aussi du côté de l'eau, qui normalement c'était eux qui la contrôlaient. Et donc ils ont perdu l'accès à l'eau. Ala kulli hal. Quel rapport avec l'étendard ? À chaque fois que les Ottomans, les Uthmaniyoun, bombardaient la ville avec leurs canons, et qui créent une brèche. Les orthodoxes avaient pensé à tout. Ils avaient des gens, ils avaient des soldats parmi leur armée qui ils avaient une seule mission. Dès qu'il y a une brèche, un trou qui est créé, à toute vitesse, ils comblaient la brèche avec des pierres, avec tout ce qu'il fallait, pour que personne ne rentre par là. Puisque l'objectif des Ottomans, c'était quoi ? C'était justement de créer un trou par lequel l'armée pourrait s'engouffrer. Et donc, eux, ils les rebouchaient à chaque fois. Non. Jusqu'à un moment, il y a eu une bataille, et c'est ce qui a été la goutte d'eau qui a conduit à la libération de Constantinople. C'est qu'un groupe de soldats ottomans ont réussi à s'introduire par une des murailles et à escalader une des tours. Et donc, il y a eu des combats féroces entre l'armée orthodoxe et l'armée ottomane sur cette tour. Mais cette tour, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs murailles. Elle est isolée de la ville. Après, il y a encore une autre muraille. Mais malgré tout, ce groupe Uthmanioun ont réussi à prendre cette tour. Et leur objectif, c'était quoi ? C'était de mettre leur drapeau, l'étendard ottoman, sur cette tour. Et ils ont réussi à le faire. Et après beaucoup de morts, de martyrs, ils ont réussi, l'un d'entre eux a réussi à mettre le drapeau sur cette tour. Et ça a créé la panique dans la ville de Constantinople. Il faut vous mettre à la place des soldats qui défendaient les autres côtés, puisque les Ottomans attaquaient par tous les côtés. Et la ville était grande. Et ils sont alertés par le fait qu'on voit le drapeau, l'étendard ottoman, dans la ville, dans une des tours de la ville. Donc les gens qui ne sont pas là-bas et qui ne voient pas ce qui se passe, c'est-à-dire que même s'ils sont dans la tour, il y a encore les murailles à franchir, qu'est-ce qu'ils se disent ? Il y a une partie de la ville qui a été prise. S'ils sont montés jusqu'en haut. Et donc ça a créé la panique, certains se sont sauvés, oui. Et c'est ce qui a permis, pas la seule cause, mais c'est une des principales causes qui a permis aux Ottomans de rentrer dans la ville et de prendre la ville de Constantinople. D'où l'importance des étendards. Et nous ici, la tribu chez les idolâtres qui a la charge de l'étendard, ce qu'on appelle en arabe al-liwa, l'étendard, c'est la tribu des Bani Abdiddar. La tribu des Bani Abdiddar. Et là, il faut qu'on se rappelle de ce qu'on a dit il y a quelques semaines. La tribu des Bani Abdiddar, c'est-à-dire tous les descendants de Abduddar. Abduddar, c'est qui ? C'est un des fils de Qusay ibn Kilab. Et si vous vous rappelez bien, on avait dit que Qusay ibn Kilab, c'est un des ascendants, un des ancêtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Abdi Manaf, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay ibn Kilab. Ça va ? Taïb. On va refaire le jeu de cette famille, donc soyez concentrés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son père, c'est Abdullah. Ensuite, son grand-père, c'est Abdul Muttalib. Son arrière-grand-père, Hashim. Son arrière-arrière-grand-père, Abdou Manaf. Et son arrière-arrière-arrière-grand-père, Qusay ibn Kilab. Quel rapport entre Abduddar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Eh bien, Abduddar, c'était le frère de Abdou Manaf et donc un des fils de Qusay ibn Kilab. L'arrière-arrière-arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le père de Abduddar, qui a donné naissance à cette tribu qu'on appelle Bani Abdiddar, et c'est eux qui ont la charge de l'étendard. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que Qusay ibn Kilab s'occupait des honneurs de la Kaaba, et de la Mecque et des pèlerins. Il avait la charge des clés de la Kaaba, donc il s'occupait de la Kaaba, de son tissu, d'ouvrir les portes, de les fermer, de nettoyer l'intérieur de la Kaaba. Il avait ce privilège. Il avait le privilège d'abreuver tous les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Il avait l'honneur et le privilège de nourrir les pèlerins qui venaient à la Mecque. Et il avait al-liwa, l'étendard. Et il avait, en tout cas c'est lui qui l'a mis en place. Ces quatre choses-là qu'on vient de citer existaient déjà. Et lui, Qusay ibn Kilab, il a rajouté quelque chose. Il a construit Darun Nadwa, la maison qui était une sorte de parlement dans lequel les grands de la tribu Quraysh se réunissaient pour la prise des grandes décisions. C'est par exemple dans cet endroit-là qu'ils s'étaient réunis pour ruser contre le professeur sallam, pour essayer de le tuer, et c'est ce qui avait conduit au fait que le professeur sallam reçoive une révélation qu'il le prévienne et qu'il fasse la hijra, l'émigration vers Médine. C'est à Darun Nadwa qu'ils se sont réunis et rassemblés pour prendre cette décision. quand Qusay ibn Kilab voit ça, la mort arriver, il faut qu'il fasse hériter soit tous ses enfants, soit un seul de ses enfants sur ces cinq choses. Et en fait, parmi ses fils, donc il y a Abd, il y a Abdou Manaf, l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abdul Uzza, il y a Abdul Dar et Abdul Uzza. Naam. Ils sont quatre. Et il voit qu'en fait, parmi tous ses fils, ils sont tous devenus importants. Ils n'ont pas besoin finalement de l'héritage de ces privilèges parce qu'ils sont tous devenus importants, sauf Abdul Dar. Et donc il décide, Qusay ibn Kilab, de donner à son fils Abdul Dar tous ses privilèges, tous ses honneurs. Il dit, tes frères, ils n'en ont pas besoin. Ils ont réussi à se faire un nom, à devenir des gens importants, respectés, de mon vivant. Donc ils n'ont pas besoin que je leur laisse ces privilèges-là pour devenir des gens importants. Par contre, toi, entre guillemets, qui n'est personne, tu as besoin de ça. Et ainsi, quand je mourrai, je pourrai mourir tranquille dans le sens où tous mes fils seront des gens importants. Ils auront un nom dans la ville. Eux, parce qu'ils ont réussi à se le faire de eux-mêmes, et toi, parce que tu hériteras de ce que j'ai de meilleur, c'est-à-dire ces honneurs, les honneurs de la Mecque. Et donc, comme c'était la dernière volonté de Qusay ibn Kilab, tous ses fils l'ont respecté, y compris l'ancêtre du prophète sallam, Abdou Manaf. Sauf que lorsqu'ils vont tous mourir, les fils de Qusay ibn Kilab, et y compris Abdul Dar qui avait ses honneurs, ce sont ses enfants à lui, ses fils à lui, qui vont en hériter, et en particulier, les fils vont se mettre d'accord pour le donner à l'un d'entre eux, c'est Shayba. Non. Et les enfants qui descendent d'un des frères et d'un des fils de Qusay ibn Kilab, c'est-à-dire l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdou Manaf, les enfants d'Abdou Manaf, eux, ne seront pas d'accord. Ils vont dire on respecte la dernière volonté de notre grand-père, c'était pour notre oncle Abdul Dar, et maintenant qu'Abdul Dar est décédé, que notre père est décédé, il faut revoir les choses. Pourquoi pas nous? Donc partageons les honneurs. Et donc ça a créé des systèmes d'alliance. Par exemple, il y avait ce qu'on appelait Hilf al-Mutayyabin, le pacte de al-Mutayyabin. Al-Mutayyabin, ça vient du terme At-Tib. At-Tib, c'est le parfum. Et en fait, les tribus s'alliaient. Il y avait des tribus qui se sont alliées avec Abdul Dar en disant c'est les Abdul Dar qui doivent le garder parce que c'était la dernière volonté de leur grand-père. Et ceux qui s'alliaient avec les Abdul Manaf et qui disaient les Abdul Manaf descendent aussi de Qusay ibn Kilab, ils peuvent avoir maintenant une part de ces privilèges. Et donc, pour faire sceller leur pacte d'alliance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramenaient une bassine avec, ils mettaient dedans du parfum et ils mettaient leurs mains dans ce parfum. Ils imprégnaient leurs mains de parfum et ensuite ils allaient essuyer leurs mains avec ce parfum sur la Kaaba pour dire on est alliés. C'était pour symboliser leur alliance. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Hilful Mutayyabin, le pacte de ceux qui sont emparfumés les mains. Al-Mutayyabin, les emparfumés, si le mot existe en français, en tout cas je l'ai inventé. Il faudra envoyer un dossier à l'Académie française pour qu'elle rentre dans le Larousse. فعلى كل حال et finalement pour pas qu'il y ait de guerre, ils ont réussi à se mettre d'accord pour que les Abdul Dar cèdent deux honneurs parmi leurs honneurs aux enfants de Abdul Manaf, c'est-à-dire les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont cédé ce qui était la plus coûteuse, abreuver et nourrir. Amma ouvrir la Kaaba, il a nettoyé, ou alors porter l'étendard. La haqqaqa va être coûteuse dans les guerres, mais ça pour eux, comme il n'y avait pas encore trop de guerres, ça allait. Et ce mytho Darun Nadwa, c'était aussi un prestige, ils l'ont gardé. Ils ont gardé Darun Nadwa, le parlement, les clés de la Kaaba, et ils ont gardé l'étendard, les Bani Abdid Dar. Et nourrir et abreuver les pèlerins, c'est parti chez les Banu Abdi Manaf. Non. Donc ça nous fait comprendre d'où vient cette histoire d'étendard. Et évidemment, les idolâtres, lorsqu'ils arrivent à Uhud, ils ont leur étendard. Et qui s'en occupe? La tribu des Bani Abdi Dar. Les descendants de Abdi Dar, ils ont l'étendard, comme ça a été scellé dans ce pacte et comme ça a été la volonté de Qusay ibn Kilab, ils ont l'étendard. Sauf que il l'avait aussi à Badr. Et quand ils ont vu la débandade que ça a été à Badr, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et donc Abu Sufyan va venir les voir. Et il va leur dire, vous savez ce qui nous est arrivé à Badr. Et nous savons tous, vous comme nous, que lorsqu'on gagne, c'est grâce au porte-étendard d'abord. Et lorsqu'on perd, c'est d'abord à cause de ceux qui portent l'étendard. Et nous avons perdu à Badr. Et si nous avons perdu, c'est à cause de ceux qui portent l'étendard. Et il dit ça pour provoquer leur désir de guerre et de vengeance. Et de laver, entre guillemets, la honte de Badr. Et donc il leur dit, si vous n'êtes pas capable d'être la cause de la victoire, donnez-nous cet étendard. Donnez-nous cet étendard à nous, nous le méritons plus que vous. Ah, il a touché là où il fallait. Évidemment, les Bani Abdiddar, ils hurlent. Et ils disent, aujourd'hui, nous allons vous montrer qui est plus digne de cet étendard parmi toutes les tribus arabes. Tu oses dire que c'est à cause de nous et qu'on n'est pas digne de cet étendard, tu vas voir aujourd'hui. Et en effet, on raconte que 14, ça on y viendra, que 14 idolâtres vont mourir les uns après les autres pour que cet étendard reste le plus haut possible. Et le premier à perdre la vie, mais c'est une version qui n'est pas authentique, ça va être dans un duel. Après ça, on s'imagine que les Bani Abdiddar ne sont pas contents. Et il y a Uthman ibn Talha qui fait partie... Il ne va pas perdre la vie, mais ala kulli hal. Vous allez comprendre. Uthman ibn Talha, qui fait partie des Bani Abdiddar, va prendre l'étendard. Je rappelle, cette version n'est pas authentifiée. On la raconte comme la racontent certains historiens, en particulier At-Tabari dans son tafsir, parce qu'il y a des choses qui racontent Dottarir, un ouvrage qu'il a fait où raconte l'histoire. Il a aussi fait tafsir le Coran, et là, pour le coup, ce récit-là, il le raconte dans son tafsir. Non. Donc, Uthman ibn Talha, il prend l'étendard et il va provoquer en duel les musulmans. Et les musulmans ne bougent pas de leur place parce qu'ils ont un ordre, c'est l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nul d'entre vous ne combatte jusqu'à ce que je vous l'ordonne. Et donc il va venir avec l'étendard. Et il va leur dire, qui d'entre vous, lui il le fait pour deux raisons. Il provoque un défi, un duel en défi, il le fait pour deux raisons. Pour provoquer déjà les musulmans. Parce que pour l'instant, je vous ai dit, on est dans cette première étape de montrer les muscles, de montrer qui est le plus fort, d'impressionner l'ennemi. Et la deuxième raison pour laquelle il fait ça, c'est pour montrer aussi aux idolâtres, à son camp, voilà qui sont les Bani Abdiddar. Et donc il va venir et il va dire, qui d'entre vous est capable de venir me défier moi en duel? On va vous montrer à vous et aux nôtres qui sont les Bani Abdiddar. Voilà, personne ne bouge. Pas parce qu'ils ont peur de lui, parce qu'ils attendent un ordre ou au moins un signe du professeur Hassan. Comme le professeur Hassan a dit, il leur a donné comme consigne, « La yuqatilanna ahadun hatta amurahu biqital. » Nul d'entre vous ne doit combattre jusqu'à ce que je lui en donne la permission, jusqu'à ce que je lui en donne l'ordre. Et donc là, il va essayer de provoquer encore plus les musulmans. Il va leur dire, « Ala taz'umuna ya ashab Muhammad. » أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة. Il leur dit, ô vous les compagnons de Mohammed صلى الله عليه وسلم, ne prétendez-vous donc pas, n'avez-vous pas l'habitude de prétendre, de dire qu'Allah nous fait précipiter à travers vos épées et vos sabres. Il nous fait empresser d'aller à travers vos épées et vos sabres dans l'enfer. Ou, yani dans les guerres, quand on se combat. Ou il vous fait précipiter, vous, il vous fait empresser de rentrer au paradis à travers nos sabres. C'est-à-dire, quand c'est nous qui vous tuons, vous dites, c'est pas grave, c'est par la cause de ton épée que je rentre au paradis. Et si c'est vous qui nous tuez, vous dites, par la cause de notre épée, de votre épée, Allah nous empresse de nous faire aller en enfer. Eh bien, moi, je vous dis, qui d'entre vous veut bien venir maintenant, en duel, et soit je le précipite dans son paradis avec mon épée, ou il me précipite en enfer avec son épée. Et il provoque à travers ce que les musulmans disent ou ce que les musulmans croient. Et là, Ali ibn Abi Talib sort et lui dit « Ana u'ajjiluka bi sayfi ila an-nar aw tu'ajjiluni bi sayfika ila al-jannah. » Moi, je vais t'empresser d'aller au paradis, de précipiter, d'aller en enfer. Je vais te précipiter d'aller en enfer avec mon épée, ou c'est toi qui me précipiteras d'aller au paradis avec ton épée. Et donc ils se font face. Et Ali ibn Abi Talib, c'est un spécialiste du duel, comme on va le voir à travers toute la vie du prophète. Et à l'époque, il est encore très jeune. Radiallahu anhu. Et donc, en quelques coups d'épée, il lui donne, il lui assène un coup à la jambe qui blesse gravement Uthman ibn Talha, qui s'écroule à terre. Il est gravement blessé, mais il n'est pas mort. Et donc, Ali ibn Abi Talib, c'est un duel, c'est la guerre. Il s'approche de lui pour l'achever. Sauf qu'au moment où il tombe, au moment où il la frappe avec ce coup d'épée à la jambe, non seulement il est gravement blessé à la jambe, et en plus, son habit, il s'est détaché, il est tombé. Et comme on dit, une kashafat awratuhu, on voit sa awra. Ses parties intimes sont dévoilées. Et Ali ibn Abi Talib, il s'approche pour l'achever, mais en même temps, il est gravement blessé. On voit apparaître sa awra. Et cet homme lui dit, Unashidukallaha wa rahim. Yabna ammi. Yabna ammi, unashidukallaha wa rahim. Ô mon cousin, Ibn Ammi, fils de mon oncle. Ce n'est pas son cousin direct, mais il y a des liens chez les arrière-arrière-grands-parents. Mais c'est pour le. Finalement, ça devient son cousin maintenant. Il y en a, il voit la mort. Selon cette version qui n'est pas authentique. Et il lui dit Ibn Ammi, ô mon cousin, unashidukallaha wa rahim. Je t'implore, à travers Allah et les liens de parenté qu'il y a entre nous. Je te supplie, je t'en supplie. Ali ibn Abi Talib, il recule et il repart. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon cette version non authentifiée, il kabbar, il dit Allahu Akbar. Et les musulmans répètent derrière lui Allahu Akbar. Et ensuite, certains compagnons vont quand même reprocher à Ali, vont dire pourquoi tu ne l'as pas achevé? Est-ce que lui, il aurait eu pitié de toi? Et il va leur dire, il m'a appelé cousin. Et il m'a imploré au nom d'Allah et au nom des liens de parenté que nous avons. Et en plus, ses parties intimes ont été dévoilées. Fastahyait. Alors j'ai eu honte. Il y a sous-entendu, pas dans ces conditions-là. J'aurais pu l'achever, mais pas dans ces conditions-là. Même si lui n'aurait eu aucune pitié, et ce sera le cas, puisque même, comme on a dit, les cadavres des martyrs, ils vont les mutiler. Il a dit pas dans ces conditions-là. Il n'est pas quand quelqu'un il m'implore et il me supplie au nom d'Allah et au nom des liens de parenté. Et en plus, dans cette condition physique, on voit ses parties intimes. Yarni, c'est humiliant. Je ne peux pas lui faire ça, Yarni. Même si cette version n'est pas authentique, on voit malgré tout le comportement du musulman. Yarni, la version, le récit en tant que tel, il n'est pas authentifié, mais ce comportement, c'est le comportement du musulman. Il aurait pu l'achever, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites qu'il n'arrive pas à transgresser. Le fait de respecter malgré tout sa dignité, alors que c'est à ce moment-là son ennemi juré. Mais entre guillemets, il répond aussi à sa supplication lorsqu'il le supplie à travers Allah. C'est-à-dire, sous-entendu, si vraiment tu crois en Allah, alors pour Allah, épargne-moi. C'est ça qu'il lui dit. Et si vraiment il y a encore, il reste quand même des résidus de reste de lien de parenté entre nous. Alors pour ce qui reste de lien de parenté entre nous. Et donc Ali ibn Abi Talib, il dit, pour ça, je suis obligé de répondre à ça. Parce que moi, Allah, j'y crois. Et c'est moi qui crois mieux en Allah que lui. Et les liens de parenté, c'est moi qui les respecte plus que lui. En faisant cet acte de l'épargner, c'est ce qu'il envoie comme message. Et en plus, il est dans une situation où, qui peut être humiliante, donc il l'épargne. Non. Ce qui est intéressant également à rappeler, c'est qu'on avait dit que comment le professeur Sim avait organisé l'armée à Uhud, et on avait dit qu'il avait désigné un porte-étendard aussi de son côté, le professeur Sim. Et c'est qui le porte-étendard? C'est le compagnon Mus'ab ibn Umayr. Intéressons-nous un petit peu aux ascendants, aux ancêtres de Mus'ab ibn Umayr. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Mus'ab ibn Umayr ibn Hashim, pas Hashim l'ancêtre du professeur sallam, un autre Hashim, un cousin du professeur sallam. Donc, Mus'ab, fils de Umayr, fils de Hashim, comme on a dit, pas le même ancêtre que le professeur sallam, fils de Abdou Manaf, pas le même que l'ancêtre du professeur sallam, fils de Abdu'l-Dar. Et là, Abdu'l-Dar, c'est le frère de qui? De Abdu'l-Manaf, l'ancêtre du professeur sallam. Et Abdu'l-Dar, c'est celui qui a gardé l'étendard et qui l'a fait hériter dans ses fils. Et donc, on voit aussi, même si ça, vous le comprenez, si vous allez loin si vous, dans vos recherches sur la vie du professeur sallam et que vous recherchez l'ascendant de chacun, vous voyez que si le professeur Hassim a choisi Mus'ab pour porter l'étendard, ce n'est pas pour rien. Il descend des Bani Abdiddar, ceux qui ont l'habitude de porter l'étendard. Et le professeur Hassim lui envoie aussi un signal en faisant ça. Il envoie un signal aux siens, parmi les Bani Abdiddar, en leur disant « L'honneur dont vous avez hérité, je ne reviendrai pas dessus, vous le gardez. » Et donc il le donne à celui qui représente le mieux les Bani Abdiddar parmi les musulmans, c'est Mus'ab ibn Umayr. Et il envoie un signal aux idolâtres en leur disant « Vous êtes les porte-étendards, nous aussi on a nos Bani Abdiddar qui sont nos porte-étendards. » Et donc ce rôle des porte-étendards et de la tribu des Bani Abdiddar, elle va être importante, que ce soit du côté des musulmans, que ce soit du côté des idolâtres. Et il faut tellement les galvaniser parce que tout le monde sait que tout va tourner autour des porte-étendards, que comme on le verra, même Hind, la femme d'Abu Soufiane, et certaines femmes vont venir et ils vont entonner des rimes devant les Bani Abdiddar pour les provoquer, pour les galvaniser. Et elle va leur dire avec ses autres femmes, « Waïha Bani Abdiddar, Waïha Humat al-Adbar » selon certaines versions. « Waïha Humat al-Diyar, Darban bi kulli battar. » Waïha, c'est quoi? C'est pour dire, pour inciter, pour dire « Allez ». Allez, Waïha, allez, ça va? Taïm. Waïha Bani Abdiddar, allez les Bani Abdiddar. Ah, c'est pas allez les bleus là, ça n'a rien à voir. Waïha, il fallait la placer, je l'ai placée, sinon j'allais mal dormir. Waïha Bani Abdiddar, allez les Bani Abdiddar. Waïha Humat al-Adbar, allez les protecteurs de nos arrières. Ceux qui nous défendent. Et dans une autre version, elle aurait dit « Waïha humat al-diyar » Vous qui protégez nos demeures. Et en vérité, si on s'intéresse aux règles de poésie et qu'on décortique le rythme qu'elle a utilisé, si on dit qu'elle a dit « Waïha humat al-diyar » il y a un problème, ça casse le rythme. Donc le plus probable, c'est qu'elle ait dit Waïha Humat al-Adbar, parce que là, ça respecte parfaitement le rythme qu'ici, c'est le bahr qu'on appelle Ar-Rajaz. Le bahr de Rajaz, le rythme de Rajaz, il a des règles. Pour faire simple, c'est le nombre de voyelles longues et courtes. En arabe, il y a les voyelles longues et courtes. Et le mieux pour symboliser ça, le plus simple, pour faciliter, pour vulgariser la science de l'arôd, de la poésie, c'est de parler de na'am et de la, et de faire un rythme avec ça. Et ici, le rythme, c'est la la na'am, la la la, la la na'am, la la la, la la na'am, la la la. Et ça respecte ce rythme, le mohim, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais ça respecte ce rythme si on dit que Hind a dit « Waiha humat al-adbar ». Et elle termine par dire « Darban bi kulli battar ». Et « Darban bi kulli battar », frapper avec tout ce qui est aiguisé. Tout ce que vous trouvez déguisé, aiguisé, frappez avec. Et donc elle galvanise ainsi aussi, mais on va revenir sur ça et sur le rôle que vont jouer les femmes idolâtres dans l'armée idolâtre. Naam. Après cela, comment va débuter la bataille ? Eh bien, ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bi'idhnillahi, tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.